Si le monstre est ce qui se montre monstre, sans se manifester, en supprimant donc la machinerie de l'apparaître, c'est que les monstres, les terrata, les écarts de la nature, affirment une pensée modale de ce qui est.
À bout de souffle. Entretien avec Boyan Manchev.
La matière, c'est la même qu'il y a, essentiellement se modifie. Elle n'est pas une substance. Elle est l'extension et l'expansion des modes, ou bien pour le dire de manière plus exacte, elle est l'exposition de ce qu'il y a. La chair, c'est le corps qui est toujours déjà coupable, déjà sale, obscène, informe puisqu'ayant perdu la ressemblance avec la forme, l'aïdos éternel. Mais la première forme de l'amour solaire est un nuage qui s'élève au-dessus de l'élément liquide. Le nuage érotique devient parfois orage et retombe vers la terre sous forme de pluie, pendant que la foudre défonce les couches de l'atmosphère.
Boyan Manchev est philosophe. Il enseigne à la Nouvelle Université de Bulgarie, à Sofia, et assure en France la vice-présidence du Collège international de philosophie. Il a publié, aux nouvelles éditions en ligne, L'altération du monde, et dernièrement, aux éditions La Faucide, La métamorphose et l'instant.
En d'autres termes, la véritable radicalité de la thèse matérialiste pataïenne, de la thèse sur l'altération, consiste avant tout dans le rapport qu'elle établit entre le concept de matière et l'idée de force active du processus de subjectivation. Le processus de subjectivation est pensé en tant que processus matériel, car il s'effectue par le biais de l'opération altérante, l'altération de la matière sensible. Le sujet processus est pensé non comme ce qui sous-tend la permanence et l'identité de la matière lors du changement incessant et déchaîné des formes, mais comme la métamorphose elle-même.
À partir de la notion d'altération qu'il trouve chez Georges Bataille, auteur dont il dit être infecté, Boyan Manchev tente de penser l'être à partir de son bord.
L'altération, c'est le mouvement de l'altérité radicale. L'altérité qui s'excède et qui, par conséquent, rend impossible la prise de l'altérité.
Une philosophie du mouvement se représentant le corps comme une composition d'instants singuliers. Un conglomérat de greffes sans puissance pure.
La vie s'excède toujours. Elle s'excède par son insuffisance. Tout effort organique de préserver la vie ne fait qu'épuiser la puissance des organes et par conséquent les altérer. La vie n'est donc que cette altération, cette transformation elle-même. La matière n'est pas la négativité de la forme, ni la puissance de l'activité. Elle apparaît comme l'agent d'un rapport radicalement différent, mais fondamental, de la dunamis et l'energia. La matière, comme puissance d'altération est l'actualité de la puissance même. Dynamique, sans traversée, actualisante. Et qui ne suppose par conséquent aucune réduction et encore moins annihilation. Elle est une puissance persistante dans et par le mouvement de l'altération. L'altération nomme le mode expressif de la présence, c'est-à-dire le mouvement grâce auquel la présence ne se referme pas dans un champ d'immanence pure, grâce auquel elle est toujours en excès sur soi, grâce auquel elle s'exprime sans pour autant saturer par une expression massive le vide critique de ce qui est.
Une pensée pour conjurer notre modernité marquée par une condition suresthétique de la production et la vente de modes de vie.
La réversibilité annonce le double régime de l'expérience sensible. Mais cela ne veut pas dire qu'il y ait, de moi à lui, fusion, coïncidence. Au contraire, cela se fait parce qu'une sorte de déhiscence ouvre en deux mon corps, et qu'entre lui regarder et lui regardant, lui toucher et lui touchant, il y a recouvrement ou empiètement, de sorte qu'il faut dire que les choses passent en nous, aussi bien que nous dans les choses. Ou bien, les choses sont le prolongement de mon corps, et mon corps est le prolongement du monde. Par lui, le monde m'entoure. Si je ne puis toucher mon mouvement, ce mouvement est entièrement tissé de contact avec moi.
Avec le matérialisme révolutionnaire, emprunté à Georges Bataille, Boyan Montchef veut croire en l'existence d'une force de persistance de la matière qui lui interdirait de s'actualiser totalement, c'est-à-dire de se figer dans une forme. Si nous le suivons, la forme ne serait pas un élément stable, mais un mode dynamique, indissociable de l'informe. Son livre nous donne des outils pour penser un monde non fini et un corps non immunisé à la puissance transformatrice de l'expérience sensible.
La théorie de l'altération et du bas matérialisme devient ainsi, en fin de compte, un plaidoyer contre l'immunisation esthétique. La contagion esthétique qui altère toute forme doit en finir avec l'immunisation esthétique.
Entretien avec Boyan Montchef, à bout de souffle.
Alors, nous sommes aujourd'hui au Collège international de philosophie en compagnie de Boyan Montchef. Boyan Montchef, bonjour.
Bonjour.
Alors, Boyan Montchef, vous êtes philosophe à la nouvelle université de Bulgarie, où vous enseignez, à Sofia. Et vous êtes également vice-président du Collège international de philosophie, le lieu où nous sommes là, ici. Ce collège, il est en jonction ou à l'intérieur du ministère de la recherche.
Voilà. Oui, c'est l'École Polytechnique, 1 rue Descartes, un très beau site où nous occupons un tout petit coin, mais quand même, le collège, pendant tous ces 25 ans depuis son ouverture, a vraiment est devenu, je pense, un espace public assez visible qui attirait beaucoup de monde. Et donc, oui, on a l'honneur de diriger le collège dans une période qui n'est pas la plus facile, ni pour le Collège international de philosophie, ni pour la philosophie en général, je pense, ni pour la pensée, surtout pour la pensée critique. D'autant plus que une des vocations d'origine du Collège, c'est précisément affirmer, je dirais, une présence critique au sein de la philosophie. Ce n'est pas une institution universitaire, ce n'est pas vraiment une institution, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de, si vous voulez, de laboratoire, d'un espace d'expérimentation avec la pensée, avec le concept, et un lieu qui aussi, au moins telle est ma vision du collège, essayait de persister dans, disons, dans une voie critique, hein, pour la philosophie, dans une présence dans la cité, si vous voulez, dans la polis, qui était peut-être un des moments fondateurs de la philosophie, mais peut-être aujourd'hui, avec l'institution universitaire, commence peu à peu à pâlir, voire à disparaître. Donc voilà.
Ce collège avait été fondé par Jacques Derrida.
Voilà, quatre philosophes, dont Jacques Derrida, Dominique Lecour, Gilles Châtelet et Jean-Pierre Faye. Donc voilà, ce sont les quatre fondateurs. Et pendant ces 25 ans, je dirais que toute une pléiade de philosophes français est passée par le collège. Je peux juste mentionner quelques-uns de ses présidents, Philippe Lacoulabarthe, Michel Deguy, Miguel Abansour. Il y a eu beaucoup de philosophes qui ont marqué, disons, la pensée contemporaine, comme Alain Badiou, Jacques Rancière, Jean-Luc Nancy, Agamben, et plus récemment Antonin Negri, qui donne aussi un séminaire au Collège international de philosophie. Mais il y a aussi, surtout, une présence de jeunes philosophes qui ne sont pas trop médiatisés ou bien trop, comment dire, mondialement célèbres, mais quand même, c'est une des axes, je dirais, majeurs du collège, une pensée jeune. J'espère que ce n'est pas jeune seulement au sens générationnel, mais aussi au sens d'invention des nouveaux concepts, des nouvelles expériences de la pensée. Mais c'est mon espoir. J'étais un des Benjamins du collège au moment où j'étais élu, il y a 6 ans. Maintenant, je ne suis pas un des vieux, mais quand même, il y a des beaucoup plus jeunes que moi. Voilà.
En tout cas, on le verra qu'avec vous, il y a effectivement un renouvellement de la critique. Aussi parce que on a découvert un article de vous dans une revue qui s'intitule Ligne. Et qui avait pour titre Les nouvelles lectures de Georges Bataille.
Voilà, oui. Ça, d'ailleurs, c'est Ligne, c'est d'abord c'est la revue, et puis ce sont les éditions Ligne animées par Michel Suria depuis, je pense, aussi une vingtaine d'années. Et c'est aussi une petite maison d'édition, mais qui est, comme le Collège international de philosophie, extrêmement, comment dire, qui ouvre des pistes pour la pensée, qui persiste dans ces voies-là, qui est loin d'être facile. Et donc, c'est l'éditeur d'un de mes deux nouveaux ouvrages.
Cet ouvrage s'intitule L'altération du monde, sous-titre pour une esthétique radicale, publié chez les nouvelles éditions Ligne, là où on peut trouver cette revue Ligne. Et puis, il y a juste quelques jours, quelques semaines,
Une semaine,
une
je pense.
semaine, un nouveau livre est sorti, une très belle édition qui s'appelle La Phocide. Et ce livre s'intitule La métamorphose et l'instant, désorganisation de la vie. Peut-être commencer par une lecture de qu'est-ce que la philosophie, en tout cas, quel rôle a joué la philosophie pour Merleau-Ponty. Alors on parlait de Bataille, mais puisque dans ce livre il y a un dialogue assez fort entre Georges Bataille et Merleau-Ponty, ce passage sur qu'est-ce que la philosophie pour Merleau-Ponty nous semblait intéressant. Il dit ceci: montrer que la philosophie, comme interrogation, ne peut consister qu'à montrer comment le monde s'articule à partir d'un zéro d'être, c'est-à-dire à s'installer sur le bord de l'être, ni dans le pour soi, ni dans l'en soi, à la jointure, là où se croisent les multiples entrées du monde. Là où se croisent les multiples entrées du monde, on est déjà là, au cœur du titre, L'altération du monde. Mais pourtant, c'est de bataille que vous avez décidé de vous infecter.
Dans cette reprise de Georges Bataille, vous annoncez en fait que vous ne souhaitez pas vous tourner vers cet auteur qui est déjà assez connu, puisque votre geste, il ne s'agit pas tant de réactiver quelque chose, de réactiver une pensée, que plutôt de s'en infecter. C'est-à-dire que là, nous avons déjà la notion de greffe, de ce qu'il y a en propre dans le corps. Donc, qu'est-ce que le corps ou la pensée a d'identité ? Et comment se tourner vers un auteur vient faire bouger les contours et transformer déjà ce qu'il y avait, ce qui semblait être fixé.
Merci de sa question qui vraiment qui nous plonge directement dans le centre de la question, en effet. Et sincèrement, je ne m'attendais pas à cette situation de Merleau-Ponty, mais qui vise vraiment le centre de cet ouvrage. Et il y avait une expression qui était le bord de l'être, hein, où se croisent les multiples entrées à l'être. Et moi, quand vous posez la question sur la philosophie, moi, je n'oserais pas définir la philosophie, mais mon expérience de la philosophie, on tâtonne toujours en faisant nos propres expériences philosophiques, était précisément celle-ci. Non pas faire face à l'être ou penser à l'être, tout cela m'a toujours paru un peu trop onctueux, trop, comment dire, majestueux, mais plutôt tenter de se situer au bord de l'être, chercher ou de faire l'expérience des possibles entrées à l'être, ou dans l'être, à travers les concepts, à travers des mouvements de la pensée, à travers des sensations au sens fort du terme, c'est-à-dire le grec aesthésis, qui m'importe beaucoup dans ce livre. Et finalement, à travers le corps, comme vous le dites, à juste titre. Et donc, précisément, dans cette voie-là, le choix de Georges Bataille comme compagnon de pensée, je dirais plutôt que personnage conceptuel, s'imposait de lui-même. Donc, Bataille est un compagnon de longue date, au moins pour moi, et je vous ferai plutôt... au début de cet entretien qui va travailler autour des concepts, je vais quand même vous faire plutôt une confession personnelle sur mon rapport avec Bataille. Donc, évidemment, j'ai lu Bataille dans ma jeunesse, disons il y a 20 ans, 25 ans. Et là, j'avais beaucoup de résistance envers lui. Donc, je ne me sentais pas du tout bataillien. Et résistance, pas à cause de son fameux excès ou de son côté excessif, mais plutôt que je trouvais son côté excessif insuffisant. Vous voyez ? Et donc, j'ai travaillé d'ailleurs à cette époque-là avec des metteurs en scène, surtout bulgares, mais qui travaillent aussi pas mal à l'étranger. Il y a toute une scène, disons, théâtrale bulgare qui était très influencée par Bataille. Des metteurs en scène comme Ivan Stanev, qui est monté sur scène, par exemple, Le Bleu du Ciel et L'Histoire de l'œil, ou de Yavor Gerdev et d'autres. Et donc, à cette époque-là, j'avais des résistances envers Bataille et je le trouvais insuffisant. Et il m'a pris beaucoup de temps de réflexion. Je ne l'ai pas quitté, je ne l'ai pas abandonné, je l'ai lu et relu. Apparemment, il y avait quand même une fascination tacite qui s'opérait. Et donc, il m'a pris quand même une bonne dizaine d'années pour devenir beaucoup plus, comment dire, pour commencer à sympathiser avec la pensée de Bataille en me rendant compte que c'est précisément l'insuffisance qui compte, parce que il ne s'agit pas d'un excès du plein, d'un excès de la force vitale, de type vitaliste, de l'orgie ou de tout ça, un excès de force, mais il s'agit précisément d'un excès d'insuffisance, hein, d'un excès de manque, sans que ce soit pour autant comment dire, une sorte de théologie négative, d'une ontologie négative ou quelque chose de cet ordre aussi, de la négativité. Et donc, à ce moment-là, je pense que j'ai commencé à mieux comprendre Bataille. Et évidemment, j'ai été beaucoup influencé par les grands moments bataillens, qui sont les moments de la fin des années 68, des années 60, qui ont, surtout 68, mais aussi les années 70, et je le dis dans la préface du livre. Et quand même, je pense qu'à cette époque-là, les lectures dominantes de Bataille étaient précisément dans cette tendance-là. L'excès, l'orgie, la transgression, ce qui transgresse tous les cadres, les normes et tout cela, ce qui était extrêmement important, si vous voulez, du point de vue performatif aussi, à l'époque. Et il est toujours, je pense, parce qu'on vit quand même une époque où on assiste, on fait partie d'une transformation immense, qui est transformation des modes de production, qui est une comment dire, marchandisation progressive de la force de travail elle-même, des modes de vie. Donc du coup, il y a toute une inorganisation du corps, si je peux dire, un devenir inorganique du corps. Le corps est de plus en plus pris dans ses prothèses, donc il est de plus en plus désubstantialisé. Donc on peut imaginer une réaction de type orgiaque, de type dionysiaque. Et là, Bataille est toujours, comment dire, très fonctionnel. Hein. Il vient à l'aide immédiatement et beaucoup d'artistes sont fascinés toujours par son geste. Mais là, je trouve que ce geste est quand même un peu ambivalent, ambigu et... En un mot, il est dangereux. Il peut être même politiquement dangereux. Donc, ces pratiques artistiques ne m'intéressent pas trop. Donc, ce n'était pas mon point de départ. Ce qui m'intéresse chez Bataille, c'est, disons, le deuxième moment bataillien qui vient plutôt les années 80, avec la lecture d'auteurs comme Jean-Luc Nancy ou Michel Suria, mon éditeur, qui ont découvert d'autres concept chez Bataille qui était inaperçu jusqu'à ce moment-là. Par exemple, le concept de communauté. Jean-Luc Nancy, la communauté des ouvriers. Donc, c'était toute une révélation parce que c'était un concept politique fort et c'était vraiment étonnant que cette époque assez communautaire, hein, pour ne pas dire communautariste des années 60, ce concept est resté inaperçu. Donc, du coup, j'ai travaillé beaucoup autour de la notion de communauté. D'ailleurs, mon séminaire et ma direction de mon programme de recherche au Collège international de philosophie porte le titre « Métamorphose de la communauté pour une ontologie vers une ontologie modale ». Donc ça a beaucoup à voir avec le livre, même si je ne pose pas directement la question de la communauté. Mais par la suite, j'ai trouvé d'autres concepts chez Bataille. Je pense que ce sont des concepts politiques aussi, qui, me paraît-il, sont non moins importants que le concept de communauté. Et par exemple, c'est un concept comme les ensembles instables. Les ensembles instables, ça peut être d'ailleurs un concept épistémologique aussi, anthropologique, mais du coup, il y avait d'autres choses qui se rajoutaient au concept de communauté. Donc, ce que je cherche chez Bataille, ce n'est pas une répétition de ce geste, disons, radical à son temps, d'affirmation d'une puissance vitale transgressive, excessive, mais plutôt d'autres types de puissance. Hein. Le concept de force, de puissance m'importe beaucoup, mais il y a un autre angle d'attaque, si vous voulez, et évidemment, il renvoie au concept central de ce livre, qui est le concept d'altération.
Il y a malgré tout un geste qui vous permet de radicaliser Bataille d'une certaine manière, qui est le geste de la surcritique. Peut-être quelques mots sur cette notion de surcritique. Parce que dans surcritique, il y a notion d'intensification de la critique.
Oui. Évidemment, c'est un terme risqué, hein, mais je pense qu'il faut aussi prendre des risques. Bataille était fasciné par le préfixe « sur ». Vous le savez bien, il parlait de sur-christianisme, Bon, je ne veux pas commencer par le terme douteux et beaucoup discuté de sur-fascisme, mais en effet, c'est un terme de Caillois, hein, qui est passé à cette époque-là. Donc, c'est une discussion énorme, la discussion autour de soi-disant fascination avec le fascisme, c'est une accusation que je trouve assez ignoble, mais en même temps, je pense que ces penseurs, si à cette époque-là, s'exposaient à beaucoup de risques de la pensée, même si évidemment ils n'étaient jamais fascinés par le fascisme, mais ils cherchaient une troisième voie entre la démocratie, Bataille l'appelait société polycéphale, et les sociétés totalitaires fascistes ou de type communiste staliniste qu'il appelait monocéphale. Donc il parlait, vous savez bien, d'une communauté acéphale. Donc c'est tout autre chose. C'était évidemment un grand critique du fascisme. C'était entre parenthèses. Mais quand même, quand on évoque le préfixe sur, il faut tenir à l'esprit qu'il y avait aussi des termes extrêmement ambigu, voire dangereux, qui passait à cette époque-là. Quand même, la surcritique, c'est une invention à moi. Georges Bataille n'emploie pas ce terme, mais il m'a vraiment paru que ce serait un concept qui pourrait saisir, si vous voulez, le geste bataillien, mais aussi le radicaliser. Bataille est devenu, disons, un classique contemporain. Et c'est un peu dangereux, je le thématise dans le préface. Hein. Les livres de Bataille deviennent un objet un peu, comment dire, fétichiste, un peu transgressif, mais quand même pas trop dangereux, tout cela. Donc, moi, j'essaie vraiment de résister à ce type de fascination facile, un peu lifestyle, un peu fashion, tout cela. Et donc, Bataille était un philosophe. Hein. Bataille était philosophe et il faut en tenir compte, il faut vraiment faire face à son exigence critique mais aussi à son exigence philosophique. Ce n'était pas un philosophe professionnel et tout le monde le sait. Ce n'était pas le maître des concepts, mais c'est précisément pour cela qu'il se risquait dans les concepts, hein, qu'il se risquait dans les expériences de la pensée. Et c'est pas un hasard que son concept, disons, de prédilection, c'est le concept d'expérience. L'expérience intérieure, peut-être son livre le plus important. L'exigence critique de Bataille, ou envers Bataille aussi, une exigence philosophique. Est-ce que c'est, au bout de compte, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. Bataille est extrêmement influent, il fait partie du paysage contemporain depuis les lectures de toute une génération de philosophes, commençant par Derrida jusqu'à Nancy et autres. Mais en même temps, il faut dire que presque personne n'a lu Bataille en tant que philosophe dans le contexte philosophique de son époque. Disons, par rapport à Heidegger, par rapport à Merleau-Ponty, par rapport à Sartre même s'ils étaient vraiment pas les ennemis, mais les adversaires à l'époque. Et donc, un des risques à prendre, c'était précisément lire Bataille en tant que philosophe. Et ce que j'essaye de faire dans les parties centrales du livre, c'est précisément de le lire dans le contexte de la phénoménologie de l'époque, de tout le courant phénoménologique. Et pas seulement, disons, dans la lignée de Nietzsche, ou de Hegel, parce qu'on sait depuis Derrida qu'il s'agit d'un hegelianisme sans limite. Or, pour revenir à la surcritique, si vous voulez, le geste philosophique de bataille est un geste double. On connaît le côté hégélien de ce geste, hein, côté qui est aussi en proximité avec le geste de Heidegger, parce que la question qui importe pour Bataille, c'est la question de l'être. Et comme il préfère de dire, de ce qui est. Hein, il évite le terme être, il parle souvent de ce qui est. C'est un autre moment qui est resté inaperçu, je pense. Mais d'autre part, il y a un deuxième moment dans le geste bataillien qui, je pense, c'est le moment inaperçu, et c'est précisément le moment critique au sens historico-philosophique du terme, au sens kantien. Parce que chez Bataille, précisément, il y a le questionnement sur la raison, le questionnement, si vous voulez, le questionnement sur l'expérience est une radicalisation de la question kantienne. Et de ce point de vue-là, en citant, en évoquant une phrase de Bataille qui dit que la question de Heidegger est insuffisante, la question pourquoi il y a l'être et non pas rien, hein, il dit il faut substituer à cette question-là la question pourquoi il faut le savoir, pourquoi il nous faut la réponse à cette question. Hein? Il dit, si on aboutit au savoir absolu, hein, à l'événement crypto-messianique hegelien, il se pose toujours la question, pourquoi bon? Et donc c'est ça, un questionnement qui relève de l'ordre critique kantien, mais c'est un questionnement sur l'être. Tandis que l'être, hein, le geste critique de Kant était précisément de laisser cette question entre parenthèses. Donc, si vous voulez, il y a deux ordres de pensée qui se croisent chez Bataille. Et c'est ça, c'est ce geste, ce double geste que j'ai tenté de désigner par le terme de surcritique. En même temps, bon, il y a le, si vous voulez, le potentiel étymologique du terme. Le mot critique, tout le monde le sait, vient du grec krinin. Qui veut dire d'abord, hein, qui est lié d'abord à crisis qui dit division, jugement, et après crise. Et donc, j'ai profité de ce potentiel étymologique précisément pour penser une pensée qui se fait dans la crise ou à partir de la crise. Et si vous voulez, cette pensée qui commence au bord de l'être est une pensée en crise. Mais la crise n'est pas un concept négatif. Ni pour moi, ni pour Bataille, je crois. La crise est plutôt ce que j'appelle aussi désorganisation. C'est un mouvement, c'est une expérience ouverte, si vous voulez. Qui plonge dans la tempête. Voilà, c'est ça.
Ça permet de constituer la crise en tant que division, permet déjà de constituer un écart entre plusieurs, créer plusieurs, enfin une sorte de distance qui fait que la question du passage redevient possible aussi, je
Tout à
pense.
fait, oui. Le moment de la division, de discernement, c'est crucial aussi dans mon usage de cette notion. Et quand on ajoute le moment de la surcritique, ça renvoie précisément au concept de l'altération dont on va sans doute parler un peu plus tard. Parce que quand on parle, par exemple, de l'expérience aesthétique, mais toute expérience est aesthétique, c'est-à-dire expérience sensible, chez Bataille, il y a cette perspective très particulière de penser toujours la limite, hein, de l'expérience, à partir de la limite, qui aussi renvoie au bord de l'être. Et donc, la surcritique, c'est précisément, elle peut nommer non seulement le discernement, mais si vous voulez, ce moment de. Peut-être, je dirais pas de passage, mais comment dire, de changement de mode, de changement de mode. Et donc là, c'est très intéressant chez Bataille. À la limite de la vue, vous avez le toucher, le devenir haptique ou tactile de la vue. Donc il y a un petit point où il y a du coup un changement qui s'opère, ou plutôt une altération, mais ce n'est pas une destruction, ce n'est pas une transgression qui juste abolit la limite, non, mais ce n'est pas une relève hegelienne non plus. Donc il y a un changement de mode où il y a une autre chose qui émerge. Et donc c'est ça aussi, je pense, la portée du geste surcritique. Saisir ce moment-là, qui est un moment vraiment insaisissable dans un sens, et à partir de lui, repenser le stable, le l'être ou quoi que ce soit.
La notion d'altération travaille évidemment tout ceci. Et vous vous êtes appuyé, on parlait de critique, rappelez quand même que Bataille est fondateur de la revue Critique et qu'il a participé à une revue qui s'intitulait Documents, une revue sur laquelle vous vous êtes beaucoup appuyé à propos des écrits de Bataille. Et dans cette revue Documents, vous avez trouvé un texte sur l'origine de l'art. Je crois que le texte dit l'origine de l'art primitif, il me semble.
L'art primitif.
L'art primitif. Et dans ce texte, vous y avez trouvé la notion d'altération, où il est dit que finalement, l'altération désigne les conditions normales de l'art graphique. Que le geste altérant est à l'origine de la représentation. Préciser que l'altération, on peut peut-être dans un premier temps la décomposer en deux temps, mais très vite il faudrait préciser que ce n'est pas deux temps successifs. Mais il y a la notion de déformation et de transformation. Là, on les sépare, mais il faut bien penser que c'est dans un même temps, vous dites même que l'altération transformatrice est intensification de l'altération déformatrice.
Oui, donc c'est un compte rendu qui s'appelle L'art primitif, ce qui était le titre du livre de Georges-Henri Luquet, qui s'appelait L'art primitif, qui est paru la même année, 1930. Là, il y avait déjà, je pense qu'il y avait en germe cette thèse-là sur l'origine de l'art que Luquet associait précisément au désir enfantin d'altérer un objet. Et Bataille insiste sur ce moment de la thèse de Luquet en la mettant vraiment en relief et en disant que oui, évidemment, à l'origine de l'art, on n'a pas une pulsion mimétique, un désir de représenter un objet. Donc, on sort du registre anthropologique de la thèse mimétique d'Aristote, qui disait que tout être humain éprouve du plaisir de l'imitation. Et donc, l'imitation est un facteur anthropologique qui est à l'origine de la représentation artistique. Chaque enfant apprend par imitation à tout cela. Bataille dit autre chose. Et sa thèse est anti-mimétique, anti-aristotélicienne de manière assez virulente. Donc il dit, il n'y a pas de pulsion d'imitation à la base de la représentation figurée, c'est son terme. Au contraire, il y a un désir, une pulsion, un trieb, en allemand, une pulsion, un instinct, si vous voulez, de destruction d'un objet. Et là, il emploie le terme d'altération. Je dois immédiatement dire que Bataille n'insiste pas sur ce terme. Hein. Le terme apparaît un peu de passage, entre autres. Et du coup, j'ai quand même je travaillais déjà beaucoup autour de la question de la transformation, de la métamorphose. Et ce terme m'a saisi. Hein. L'altération, bien sûr, c'est pas un concept nouveau, mais le terme était extrêmement pertinent parce qu'il y a un double tranchant, n'est-ce pas ? D'un côté, il désigne une sorte de destruction, de détérioration de la chose. D'autre part, il y a le côté de la métamorphose, de la transformation. Si vous voulez, un moment négatif, un moment affirmatif. Et donc, chez Bataille, ce qui était très intéressant, il y avait précisément ces deux moments à la fois. Donc, je les ai appelés moments négatifs, le moment de la déformation, et moment positif, le moment de la transformation. Parce que Bataille ne s'arrête là où s'arrête Luquet. Donc, il ne pense pas que le seul désir de destruction anime l'enfant. Figurez-vous, il y a devant l'enfant, il y a une feuille blanche, et donc l'enfant, selon Bataille, Luquet, éprouve le désir d'altérer, hein, la surface de la feuille. Donc il éprouve le désir de, si vous voulez, d'entrer en contact fort avec elle, en la déchirant, peut-être en faisant avec un crayon, en faisant des gribouillages, on dit ça, des gribouilles, voilà. Et donc, cela altère, cela abîme le papier qui est souvent déchiré par l'enfant pendant cette opération. Et pour Bataille, je répète, ce n'est pas une pulsion représentative. Hein. Peut-être Jean Piaget ne serait pas d'accord avec lui, mais voilà, Bataille pensait que c'était plutôt un désir de transformer l'objet et non pas de représenter un autre objet. Alors, il y a un deuxième moment dans la thèse de Bataille qui est très intéressant. Et là, il dit, quand même, l'objet transformé, hein, la feuille transformé est a posteriori associé à un objet, disons à un cheval ou à une tête. Ça veut dire, s'il y a quelque chose de très intéressant, il n'y a pas la représentation, mais il y a vraiment une présentation, au sens où il y a un nouveau objet auquel la référence est attachée a posteriori, après l'opération altérante. Donc c'est la thèse de Bataille. Et ça m'a paru extrêmement important, intéressant, d'autant plus que Bataille associait lui-même cette opération à un autre registre qui lui importe beaucoup, le registre anthropologique, notamment l'altération des cadavres, dit-il. Et il parle de ça directement dans le compte-rendu. Il dit, il y a quelque chose qui, à la fois, évoque l'altération du corps, la décomposition du cadavre, dit-il, mais aussi à l'altération, liée aussi à l'altération du cadavre, qui transcende cette altération, c'est-à-dire à l'opération avec laquelle émerge le sacré. Hein? Donc, si vous voulez, là, il s'ouvre tout un nouveau registre, qui est le registre principal de la pensée de Bataille. Et c'est pour cette raison-là, d'abord, je pense que ce concept a une force analytique très forte par rapport à la pensée de Bataille. Je pense que cela pourrait être un opérateur, hein, immanent de la pensée de Bataille, qui est aussi un fil rouge possible d'une lecture de Bataille. En même temps, il m'a paru que c'est le terme qui pourrait aussi désigner toute une pensée sur l'expérience sensible, c'est-à-dire expérience esthétique, qu'on trouve en puissance chez Bataille et que j'ai essayé précisément d'articuler en partant de Bataille, non seulement en s'appuyant sur lui, parce que souvent, bon, peut-être je force moi-même à mon tour Bataille, je le transgresse, j'espère ne pas quand même violer ces textes, faire violence à ces textes, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc l'altération du monde, juste pour retourner au titre de cet ouvrage. Pourquoi l'altération du monde ? C'est un ouvrage qui parle surtout sur l'expérience sensible, hein, sur l'expérience esthétique, hein, qui était le grand thème aussi de la phénoménologie. Il me semble que chez Bataille, il y a aussi ce geste-ci. Il y a un essai de penser ensemble, de penser, si vous voulez, la coïncidence de quatre ordres de la pensée, au-delà des disciplines formelles. Et ces quatre ordres sont l'ordre, disons traditionnellement appelé ontologique, l'ordre esthétique, l'ordre éthique et l'ordre politique. Donc du coup, je pense que c'est un opérateur fondamental de la pensée de Bataille qui a des hypostases dans ces quatre ordres. Et donc, pour moi, c'était aussi un concept qui posait des questions ontologiques, des questions qui relèvent de la pensée de l'être, qui m'a permis aussi peut-être de tâtonner dans la voie d'une possible pensée de l'être, mais en même temps, il pose des questions d'ordre éthique et même politique. Donc voilà, c'est ça le grand intérêt pour moi de ce concept d'altération avec son double.
Ces quatre ordres, d'ailleurs, ils sont clairement posés dans le livre. L'ordre éthique, dans la discussion à la fin du livre avec Lévinas. L'ordre politique sur la question de la matière révolutionnaire, le matérialisme révolutionnaire de Bataille. L'ordre ontologique, on en a déjà parlé, hein, par rapport à la question de l'être, et l'ordre esthétique, qui est la question de l'expérience comme expérience sensible.
Pour revenir sur l'altération, effectivement, on peut voir que tout ce concept d'altération balaye un petit peu le XXe siècle. Je pense à Francis Bacon, et tout ce qui a été produit aussi comme texte sur Beckett, Artaud, sur un concept en fait qui a été inventé de défiguration. Et il est vrai en fait que quand ces œuvres sont apparues, il y a eu un sentiment, on se positionnait par rapport à elles toujours d'un point de vue négatif. La défiguration ou la littérature de l'épuisement, ou l'homme désespécé, etc. Et justement, en fait, ce qu'on trouve dans l'altération du monde, c'est non pas que ce soit un moment négatif, mais plutôt que la décomposition est une recomposition, que la défiguration n'est que le mouvement de la figuration, puisque là, dans le sens où une figure est inachevée, en fait, elle est perpétuellement inachevée, et donc l'altération, c'est un processus infini de la matière. Donc on n'est plus, on quitte tout le positionnement négatif du XXe siècle pour ouvrir sur une pensée du mouvement.
Oui, je vous remercie beaucoup de cette question parce qu'en fait, oui, c'est pour moi, c'est ça le grand enjeu, pas de ce livre, mais je pense que c'est un peu l'ordre de jour de la pensée de l'être, de la pensée du monde. Je préfère quand même le terme monde au terme être. C'est vrai, le terme, par exemple, prenons le terme de défiguration. Et c'est vrai que j'ai trouvé toujours ce type de concept insuffisant, précisément parce qu'il véhicule toujours une pensée du négatif. Et moi, je pense que Bataille, son geste est précisément un geste qui tente de briser la logique du négatif. Hein. Si vous voulez, c'est la lignée hegelienne. Et c'est évidemment, c'est l'héritage de toute la pensée de la finitude. Hein. La finitude qui, évidemment, pose la question du négatif. L'altération, si vous voulez, j'essaie de tirer la conclusion de ce petit compte rendu de Bataille sur l'origine de la représentation figurée. L'altération est non seulement l'opération originaire de la représentation, c'est-à-dire il y a toute une affirmation très forte de Bataille qui essaye de non seulement de s'opposer à la logique mimétique d'Aristote, parce que cela se fait depuis le romantisme au moins, même plus tôt, mais de proposer un ordre différent de la pensée. L'altération n'est pas un geste non mimétique. Hein. Ce n'est pas dans la logique de la négation. Et c'est cela qui importe. C'est, au contraire, c'est une condition d'origine. Et c'est aussi la condition d'origine de l'expérience sensible. Donc, vous avez tout à fait raison que, tandis que des notions comme la défiguration présupposent déjà une sorte de figure, présupposent une forme, une substance positive posée, hein, et suppose leur déstructuration, défiguration, déconstruction, si vous voulez. Chez Bataille, c'est la condition d'origine. Et là, en fait, je fais un retour peut-être altérant sur Aristote. Et je pense que le grand débat de Bataille, c'est en fait un débat avec Aristote, même s'il ne l'évoque jamais. Hein. Mais il ne faut pas oublier que, pour Aristote, lui aussi, l'expérience sensible était d'abord une altération, aloiosis. C'est la définition de l'aesthésis dans son traité sur l'âme, de l'âme. Donc, qui est un traité sur l'expérience sensible, bien sûr, sur l'aesthétique. Et donc, pour Bataille aussi, l'altération est, excusez-moi, l'aesthésis, l'expérience sensible, est altération. Mais quand même, il y a une grande différence par rapport à Aristote. C'est que, par exemple, Aristote disait, je l'évoque, il disait qu'on n'est pas en droit de dire de l'être pensant lorsqu'il pense qu'il s'altère. Hein? Donc, il n'y a pas, ou bien on ne peut pas dire d'un sens qu'il se sent lui-même. Il n'y a pas de, si vous me permettez, il n'y a pas de méta-aloiosis. Aristote n'utilise pas ce terme. Hein? C'est une obsession moderne, je pense. Quand même, ce n'est pas l'obsession aristotélicienne. Mais pour Bataille, précisément, cette méta-opération nomme, si vous voulez, le cœur même de la question. Chez Aristote, il y a toujours le sujet qui vient devant le prédicat, avant le prédicat, n'est-ce pas? L'être pensant est là, puis il pense, il reste, il ne s'altère pas. On ne peut pas dire qu'en pensant, il s'altère. Tandis que pour Bataille, c'est ce prédicat actif, l'opération elle-même qui vient d'abord. Donc, c'est avec la pensée, avec l'altération par la pensée, que naître est possible. Hein? Vous voyez? Donc, il y a une radicalisation de l'altération qui est précisément, comme vous le dites, Amandine, c'est une remarque extrêmement juste, c'est précisément une pensée du mouvement en termes ontologiques, je pense. C'est l'enjeu. L'enjeu est un enjeu ontologique. Et donc, du coup, je me suis permis de rappeler ce retour à Aristote, un retour héraclitain. Donc, par le biais de Bataille, j'ai tenté de lire, de redécouvrir un Aristote héraclitain. Et je pense qu'Aristote était quand même un peu héraclitain, mais c'est la tradition aristotélicienne qui a étouffé cette puissance originelle de la pensée d'Aristote. Je n'ai pas vraiment le temps de parler d'Aristote, mais vous voyez que je travaille à travers Bataille ou à partir de Bataille, mais je pense que c'est plutôt souvent un travail sur d'autres penseurs aussi. Donc Bataille, c'est un opérateur, c'est un prisme, si vous voulez, mais aussi c'est un compagnon, j'ose dire. Et donc là, la thèse sur l'altération, c'est une thèse sur les catégories métaphysiques ou ontologiques du commencement, les catégories d'Aristote.
Puisque Bataille a radicalisé des penseurs, ça vous permet de travailler avec ces penseurs qu'il a radicalisés. Et comment il les a radicalisés, qu'est-ce qu'il a entrevu de ces penseurs? D'ailleurs, vous précisez, par rapport à ce que vous venez de dire, que à même la matière, un sujet s'extrait, que l'être s'extrait de la matière. C'est le processus de subjectivation là qui est clairement repensé, redéfini. il y a aussi une dimension qui semble proche finalement de Spinoza. Par exemple, sur la nature, où il est dit « Elle n'est que la communauté, la conformité et la composition des modes de ce qui est. Les formes sont ces modes. » Et les modes sont des écarts, c'est-à-dire des excès, du manque de substance. Alors, cette composition des modes et donc des singularités, on semble proche du spinozisme.
Ça, c'est très pertinent et très important de poser la question du lien de la thèse développée dans ce livre avec la pensée de Spinoza. D'abord, je dois dire que, on peut situer Bataille, si vous voulez, après ce que j'ai dit par rapport à Aristote, on peut le situer dans ce que Ernst Bloch appelle aristotélianisme révolutionnaire. C'est un terme qui me plaît beaucoup. Il y a même un livre qui est paru en français qui s'appelle Averroès ou La gauche aristotélicienne, je pense. Donc La gauche aristotélicienne. Et donc Bloch fait une lecture surtout de Averroès, mais aussi des penseurs comme Bruno ou bien Spinoza, qui situe aussi dans cette tendance, dans cette gauche aristotélicienne. Qu'est-ce que la gauche aristotélicienne? C'est la gauche c'est le matérialisme aristotélicien. Ce sont les penseurs ontologiques, les penseurs qui pensent l'être à travers la matière. Et non seulement à travers la matière en tant que substance, mais en tant que principe actif. Donc, Bloch essaye de voir toute l'histoire de la philosophie moderne comme précisément une mise en valeur du terme subordonné chez Aristote, le terme qui est la matière et la dynamis, la puissance. Et donc, ce qui m'intéresse chez Bataille aussi, c'est cette pensée de la matière sauvagement libre, si vous voulez. Il parle dans le bas matérialisme et la gnose d'une matière sans substance, il le dit lui-même, d'une matière sans substance, sans forme, l'informe, vous savez, et qui est une matière anomique, anarchique même, il le dit, qui est une matière libre, mais aussi créatrice. Créatrice. Et ça, c'est très important. Donc, il y a une puissance créatrice de la matière. Bon, quand même, la thèse autopoétique sur la matière est une thèse très ancienne. Et je suis quand même, je pense, j'espère, je l'espère, j'espère que je suis prudent de ne pas faire le tour quand même sur une thèse autopoétique qui est problématique pour plusieurs raisons. Ce qui m'intéresse dans la pensée de Bataille sur la matière est dans un sens très proche à la pensée spinozienne. Et vous avez tout à fait raison, Emmanuel, d'évoquer la catégorie de mode. Bataille ne parle pas de mode, c'est vrai. Mais sa réflexion, plutôt ses expériences, à partir de ce qu'on appelle dans la psychologie facile cas limite, à partir des expériences limites, à partir des expériences surcritiques, est toujours une sorte de, comme on l'a dit tout à l'heure, une sorte de changement de mode. Il y a toujours une opération qui est opération altérante qui montre que la substance, en effet, faisant défaut, on ne peut que changer de mode tout en inventant des modes. Et c'est un peu ça, la pensée de Bataille sans la substance. Là, bon, il faut dire entre parenthèses qu'il faut se poser la question, qu'est-ce que la substance chez Spinoza ? Parce que c'est une question très difficile. Et est-ce que c'est la substance aristotélicienne ? Et là, ça va ouvrir des questions énormes, philosophiques. Mais ce qui m'intéresse, et je vois vraiment une promesse, si vous voulez, chez Bataille, pour penser pas seulement un matérialisme, mais une matière sans la substance, où précisément la métamorphose ou l'altération est la seule substance. C'est ça, le mouvement, finalement. C'est l'opération qui vient en premier et pas la substance dure. Bon, là, quand même, il y a toute une série de questions. Et j'essaie d'en faire face dans le deuxième livre qui vient de paraître et dans d'autres ouvrages aussi. Il y a, par exemple, la question de la persistance. Parce que, vous savez, si on resitue nos questions dans l'horizon de ce que Foucault appelait ontologie de l'actualité, hein, si on repose la question d'une ontologie du mouvement, de changement perpétuel, dans le contexte qui est le nôtre, où précisément on vit une généralisation de la fluidité, on nous parle du capital immatériel, de l'immatérialisation du travail et tout cela, de la fluidité, flexibilité, tout cela, ce sont les catégories du capitalisme néolibéral que j'appelle dans d'autres textes capitalisme pervers, puisqu'il effectue précisément une opération perverse en s'appropriant la puissance de transformation de la vie. Là, si on resitue nos questions dans ce contexte-là, en fait, ce sont les enjeux implicites de cet ouvrage, et peut-être d'un prochain ouvrage à venir, où ils seront posés tout à fait explicitement, il se pose des questions quand même assez difficiles. Hein. Est-ce qu'une ontologie du mouvement, du changement, de la fluidité n'est pas très problématique? Est-ce qu'elle ne renforce la thèse du capitalisme néolibéral? Et puis, il y a quand même cette question par rapport à l'exigence marxiste de la praxis transformatrice, exigence qui est évidemment en crise aujourd'hui, mais est-ce que la transformation du monde n'est pas aussi une altération du monde, puisqu'on voit, on a déclenché des catastrophes écologiques, donc le monde physique se voit transformé. Est-ce que c'est cela, la transformation du monde? Et là, il y a tout un travail à faire parce que la praxis transformatrice est évidemment une exigence qui reste à l'ordre de la pensée et à l'ordre du jour. Mais, même chez Marx, je pense, il y a toute une pensée de la matière, hein, qui est quand même pensée substantialiste et pensée dans un sens conservatrice, hein, qui on peut chercher ses origines chez Hegel et chez Fichte. Il y a des choses très intéressantes d'ailleurs de ce point de vue chez Schelling, mais c'est une autre question. Donc je pense qu'il faut reposer à l'exigence de la praxis transformatrice, ou même je dis maintenant méta-transformatrice, puisque le monde se voit transformé, altéré, hein, pour le pire, et donc il faut poser la question de la transformation du monde, pas seulement de la transformation, mais de la transformation de la transformation. Et là, évidemment, il faut penser à la force à travers laquelle le monde pourrait persister. Et pour moi, c'est une catégorie qui est fondamentale. Hein, peut-être c'est le terme qui vient avec l'altération, mais pour moi, il est aussi essentiel de penser la persistance, mais non pas comme disons, la conservation ou comme la répétition ou la stabilité ou quelque chose comme ça. La persistance est un concept qui n'est pas très présent dans ce livre, mais qui m'occupe vraiment et que j'associe à la fois avec la résistance et l'altération. Donc, j'étais toujours un peu, comment dire, quand Deleuze dit, hein, tout le monde cite la thèse, la résistance est première. Hein. Il y a pensée très forte sur la résistance chez Deleuze, chez Foucault, chez Blanchot, chez Negri. Donc la résistance est un concept, pour moi, aussi ontologique fondamental. Et quand même, je ne peux pas accepter que la résistance est première. Parce que la résistance n'est pas rapport à quelque chose. Et ce qui m'intéresse vraiment, par exemple, chez Aristote, et c'est pour ça que je dis qu'il y a une puissance héraclitaine chez Aristote, qui est restée quand même inaperçue ou bien étouffée, quand il parle dans la métaphysique de la catégorie de dynamis, il énumère quatre types de puissance ou de dynamis. Et c'est le quatrième qui est resté complètement inaperçu, qui n'a même pas un nom en latin. Et selon Aristote, c'est la puissance de la puissance de résister à son changement vers le pire. C'est son terme. D'autres termes, de résister à son altération. Mais altération au premier sens du terme, de détérioration. Donc, du coup, tout le monde parle de la dynamis, et par conséquent de la matière, comme des termes subordonnés chez Aristote, subordonnés à la forme, à l'idée, à l'energeia. Mais, en fait, Aristote a laissé ouverte la porte pour une pensée de la puissance qui a une puissance immanente de résister à son actualisation. Et ça, c'est très intéressant. Et les conséquences de cette thèse aristotélicienne, je pense, ils sont énormes pour toute l'histoire de la philosophie. Et je pense que Bataille, précisément dans sa pensée sur la matière, était très proche à ce type de pensée. Donc, il y a une puissance de la matière qui est non seulement puissance de résister, mais qui est aussi puissance de persister en tant que matière, c'est-à-dire de ne pas se figer en forme, de ne pas s'actualiser jusqu'au bout, mais de persister dans sa transformation, puisque la matière, c'est ça, c'est la métamorphose pure. Et donc, c'est cela qui m'intéresse beaucoup, et je pense que l'altération peut nommer, dans son deuxième sens, transformation, métamorphose, ce mouvement-là, ou cette puissance-là de la matière. Et d'ici, vous voyez, la relation avec Spinoza devient, je pense, plus, au moins possible, même si bon, on sort des siècles et tout, mais je pense qu'il y a une possibilité d'associer non seulement la pensée de Bataille sur la matière, le bas matérialisme, avec la pensée de Spinoza sur la puissance, mais aussi on peut saisir les enjeux de la pensée de Bataille pour une pensée politique radicale aujourd'hui. Parce qu'il y a tout un courant de la pensée qui se revendique de Spinoza, je pense à, non seulement à Deleuze, mais surtout à Negri et penseurs proches à lui, par exemple à Paolo Virno, le grammaire de la multitude. Et là, il y a le concept de potestas, vous savez bien, potestas qui motive cette multitude, ou cette puissance que Negri appelle biopouvoir, n'est-ce pas, le pouvoir de la multitude de faire face à la biopolitique actuelle. Et là, je pense que les enjeux politiques actuels de la pensée de Bataille sont vraiment extrêmement intéressants. Et juste un dernier mot, parce que je pense qu'en plus, parce que je ne suis pas j'ai une estime, une très grande estime pour la pensée de Negri, de Virno et d'autres penseurs proches à eux. En même temps, je ne partage pas tout à fait la thèse sur la biopolitique. Il est évident qu'on traverse une transformation qui est vraiment une transformation de la condition, si vous voulez, structurelle. Non seulement des modes de production, mais qui est de la vie elle-même, hein, de la condition de vie, puisqu'il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, une marchandisation de la force de travail, qui est aussi marchandisation des formes de vie, qui est finalement production de formes de vie. Et voilà, c'est ça aussi la biopolitique. Mais là, je pense, je suis en léger désaccord, par exemple, avec Virno quand il dit que l'opération capitaliste consiste en ceci, vendre la puissance pure hein, du corps, qui est la puissance du corps. Et là, par exemple, à travers Bataille, on peut revenir à cette pensée sur le corps comme une composition de singularité hein, qui n'est jamais substantielle, même en tant que puissance. Il n'y a pas de puissance pure. Le corps est toujours une composition de singularité, des moments singuliers, d'expériences singulières qui sont des expériences esthétiques, mais aussi techniques au sens grec de techné, hein, qui sont aussi prothétiques, si vous voulez, qui sont des prothèses. Donc, le corps, en lui, est une composition, un conglomérat de greffes, tout cela. Donc, il n'y a pas une puissance pure. Et c'est pour cela aussi que la puissance du corps ne pourrait pas, ne pourrait jamais être appropriée jusqu'au bout, ne pourrait pas être saisie. Donc, il y a dans la matière un principe révolutionnaire, si vous voulez, et c'est pour cette raison-là que je tente de penser, dans la voie ouverte par Bataille, des possibilités de subjectivation, des processus de subjectivation purement matérialistes, mais pas substantiels du tout. Hein. Il ne s'agit pas d'une nouvelle substantialisation de la matière contre l'inorganique qui nous entoure. Il s'agit précisément de l'invention des nouveaux modes qui sont aussi de nouveaux modes techniques, ce sont des technailles, des rapports avec le monde, de manières de faire, d'agir, mais aussi des modes esthétiques. Parce que notre situation aujourd'hui, c'est une condition aussi sur-esthétique, hein, parce que nous sommes forcés, hein, nous sommes bombardés, si vous voulez. Nos sens, nos expériences sensibles sont violés, si vous voulez, par des régimes de production très intenses d'images, de sons qui ont la fin de vendre, mais aussi de produire des modes de vie.
Ce que Bernard Siegel appelle le conditionnement esthétique, en fait.
Voilà. Sur-esthétique, je dirais même. Parce que l'esthétisation du monde dure déjà depuis au moins 2 siècles. Hein. C'est l'époque moderne, c'est une époque d'esthétisation du monde. Esthétisation du monde qui peut être associée à ce que Benjamin appelait esthétisation de la politique. Hein. Vous vous souvenez bien, Benjamin oppose l'esthétisation de la politique à la politisation de l'esthétique. Et moi, je pense qu'après Bataille, aujourd'hui, la question, c'est non pas de bio-esthétiser le politique, mais précisément de repolitiser le bio-esthétique, hein, ce qui veut dire de rouvrir la puissance politique immanente à l'expérience sensible. Et c'est pour cela que, d'ailleurs, Bataille est vraiment cruciale. Vous m'avez dit au début, et je n'ai pas répondu, je reviens, que j'étais infecté par Bataille. Et c'est très juste, parce que c'est le penseur par excellence de la contagion. Et donc, le régime esthétique est le régime immunitaire par excellence. C'est ça la civilisation du monde. Produire de l'immunisation, de discipliner le monde. Et du coup, Bataille ne pense jamais à l'esthétique comme un champ autonome et sans danger. C'est au contraire, c'est l'esthétique, hein, c'est toujours une expérience qui est sans salut, au bout du compte.
Thank you.
ce que Bataille appelle la continuité de l'être, mouvement de l'altération qui s'effectuant toujours sur une limite, suspend cette limite pour ouvrir une dynamique de recomposition de la limite. Là, on est dans ce hiatus, cette déchirure, où à un moment donné, la limite est suspendue et elle se recompose. Toutes ces questions que se pose Bataille, elles se posent dans un cadre qui est celui de la modernité par rapport à la question de toucher à la chose et la question de que la représentation ne suffit plus et que on veut l'immédiateté, toucher, donc toute la question autour de la chair, de l'obscène. Vous parlez de Courbet et des origines, le tableau Les origines du monde. Et donc il y a toute une réflexion qui s'engage autour de comment toucher à la chose. Et Bataille dit on ne peut pas toucher, c'est-à-dire ni la représentation fonctionne, ni l'expression de la chose fonctionne. En fait, on ne touche pas à la chose. Il y a une proximité absolue et une distance infinie.
Très, très intéressant et très important aussi. Et là, de ce point de vue-là, apparemment, Bataille prend une position très nette par rapport à un des plus importants débats phénoménologiques du siècle dernier. C'est le débat entre direct ou indirect entre Husserl, Heidegger, Levinas, Merleau-Ponty, Sartre. Et donc, du coup, il y a des penseurs de la proximité, il y a des penseurs aussi de la distance. Ce qui renvoie aussi le débat entre ontologique et éthique, par exemple, Heidegger et Levinas. Et de ce point de vue, je trouve que Bataille est très proche, en effet, au dernier Merleau-Ponty. Dernier Merleau-Ponty qui, dans les notes, les brouillons pour le visible et l'invisible, se proposait précisément de penser à partir d'une tâche aveugle, hein, d'un espace vide qui est au centre qui se situe au centre, au cœur du toucher et qui reste intouchable et qui garantit précisément cette possibilité de cette réversibilité, ce qu'il appelle la réversibilité du toucher, hein, de se toucher, hein, de se toucher soi-même. Jean-Luc Nancy dit se toucher toi. Donc là, il est question d'un rien qui est tout autre chose qu'une négativité métaphysique ou bien dialectique. Merleau-Ponty était un des grands critiques de la négativité à cette époque-là. Et donc, il s'agit, si vous voulez, de rien du tout, hein, de rien tout simple, de rien qui est rien, qui est infime, hein, qui ne se relève pas. La négativité hegélienne, c'était la négativité du travail, la négativité de la création, tout ce qui, en effet, s'opposait à la nature. Donc la négativité était créatrice, productrice, et au bout du compte, elle était relevée. Chez Bataille, il n'y a rien de tel. Et ce qui m'intéresse chez Bataille, c'est précisément cette tâche aveugle. Il emploie le terme tâche aveugle, qui est au cœur même de l'expérience sensible. Il en parle beaucoup dans ses textes qu'il appelle lui-même mystiques, par exemple dans l'expérience intérieure, mais aussi dans quelques textes de documents. Et c'est ce lieu vide, hein, ce centre vide, cette tâche aveugle, cette cécité à l'intérieur de la vue que j'ai essayé d'associer précisément avec la puissance d'altération, en disant que précisément cette tâche aveugle, ce rien, cet écart immanent, j'emploie le terme distance immanente, cette distance immanente ne permet jamais à l'expérience de se refermer sur soi, hein, ne permet pas la clôture. Et donc c'est ça l'opérateur de l'altération. Il y a une, pour revenir à Aristote,
il y a une puissance de résistance
immanente qui fait que l'opération transformatrice est possible. J'essayais d'aborder cette question à travers des exemples concrets. Hein. Je parle sur des d'œuvres d'art, précisément sur Courbet, sur aussi sur la fameuse photographie de Boifard qui était proche de Bataille, le Gros Orteil. Il y a un texte du même nom de Bataille qui était publié dans la revue Documents. Et donc j'essaie de montrer que là où il y a une proximité radicale, hein, là où il y a précisément, on abolit l'illusion de la distance sur laquelle repose précisément la représentation visuelle, surtout, on ouvre précisément la possibilité de transformation de la vue, de l'expérience de la vue, en toucher. On ouvre le règne de l'haptique, du tactile. Et je pense que c'est très, très, très présent chez Bataille, cette tactilisation de la vue. Il était obsédé par la cécité. Vous savez, quand son père était aveugle, il y a toute une histoire. Bon, l'histoire de l'œil, après tout, son roman plus connu, c'est l'histoire de Neuil, mais de Neuil exorbité, hein, qui fait un voyage, hein, qu'on peut lire comme un roman d'aventure surcritique, puisque c'est le personnage, c'est l'œil, c'est l'histoire de l'œil. Et d'ailleurs, le protagoniste du roman, il n'y a pas un nom. Son nom n'apparaît pas dans le roman. Il y a Simone, la fille, il y a Sir Simon, hein, et le gentleman pervers, et puis il y a le troisième, le protagoniste, le narrateur, qui n'a pas de nom. Donc le personnage du roman, c'est l'œil exorbité, vous savez, qui fait un voyage inouï et qui pénètre à la fin, vous savez, la vulve de Simone. C'est tout à fait monstrueux, et en même temps, c'est une expérience tragique et surcritique à la fois de la limite et, donc, et de la cécité et de la possibilité de voir au-delà de la vue à travers le toucher.
Aussi peut-être de la question de l'œil dans la nuit. Enfin, l'œil qui se voit ne plus voir. Je me disais que il y avait peut-être cette jonction-là entre le fait que dans l'histoire de l'œil termine dans la vulve de Simone, qui est la nuit profonde, et puis sur un moment où Bataille dit qu'il souhaiterait être égorgé
par la jeune fille, au moment où il viole la jeune fille à qui il peut dire « tu es la nuit ». Oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'est du l'anus solaire. Je suis presque sûr. Mais ce que vous dites, je ne sais pas si vous pensez à Bataille lui-même, ce que vous dites de l'œil nocturne, parce qu'il parle de ça, dans l'expérience intérieure, d'un œil qui se voit ne pas voir dans la nuit. Et c'est extraordinaire. Donc c'est une image extraordinaire qui est précisément une image qui excède l'image, qui excède la représentation, mais qui aussi parle ou exprime, on ne peut pas dire même exprime, mais qui est proche de ce que Aristote déclare impossible, notamment la méta-altération ou la méta-aesthésis, parce qu'Aristote dit « l'œil ne peut pas se voir lui-même ». Ce que vous dites, c'est précisément ça. Se voir regarder, mais dans la nuit. Et oui, je pense que c'est ça, chez Bataille, le geste, si vous voulez, de la chose, parce que je pense que la puissance du geste de Bataille, qui peut, d'une part, évidemment, être vue comme des représentants radicaux de la modernité tardive, c'est-à-dire de, obsédés par l'expression de la chose, par le toucher à la chose dont, dont vous, vous parliez tout à l'heure, montrer la chose, n'est-ce pas, la, la, l'origine du monde, chez Courbet. Chez Bataille, on ne touche pas à la chose. C'est pas ça. C'est pas un sparagmos dionysiaque où on, tu vois, à travers la, la déchirure ou le déchirement, ou, la violence, on touche à l'être. Même s'il dit, par le sacrifice, on touche à la continuité de l'être. Et quand même, le sacrifice est un rituel, un rite, et on reste toujours dans la discontinuité radicale. Parce qu'à la fois, on s'identifie à la victime. Vous savez, le, Bataille parlait du sacrifice nu. Sacrifice nu, c'est-à-dire, de, c'est un sacrifice du sacrifice. C'est un sacrifice de la logique du sacrificiel et qui se termine par l'auto-sacrifice du prêtre. Parce que c'est cela. Il faut qu'il y ait une identification totale avec la victime pour qu'il y ait une continuité de l'être, et dans ce sens-là, la scène monstrueuse par laquelle se termine le roman L'Histoire de l'œil, précisément le viol du prêtre et le, son exorbitation, est précisément une sorte de sacrifice inversé, cruel, au sens de Bataille. Mais en même temps, ce sacrifice-là, il est évidemment tragique parce qu'on ne peut pas être dans la continuité. Et c'est cela le tragique de ce roman. Parce que c'est ce que Bataille appelait la déchirure. Et c'est l'impossibilité de la continuité, ou plutôt la possibilité de la continuité qu'en tant que discontinuité radicale. Vous vous souvenez peut-être une autre scène de, du roman L'Histoire de l'œil, qui est peut-être encore plus difficile que cette orgie fameuse à la fin du roman. C'est la scène avec le suicide de Marcel. Vous vous souvenez, cet ami des deux protagonistes. Et donc là, ils violent, ils abusent du cadavre de la fille morte. Et il y a un passage qui est vraiment extrêmement fort et difficile à la fois, où il parle à quel point il ressentait l'étrangeté de ce corps inerte qui était absolument étranger à lui. Donc c'était pas ce corps mort qui ne résistait plus, ne pouvait pas être approprié. On ne pouvait plus s'identifier à lui. Donc ce n'était pas un corps à eux du tout. Donc sans la résistance du corps, il n'y a plus de possibilité de contact ni de fusion. Donc la déchirure de Bataille, je répète, ce n'est pas une expérience dionysiaque, orgiaque, mais c'est précisément l'impossibilité de cette expérience, l'impossibilité de la fusion par l'orgie qui évidemment aboutit à l'auto destruction de la communauté orgiaque, parce que c'est ça, sans l'immunité il y a toujours le danger de mort. Et donc la déchirure, j'essaie aussi de dire que c'est si vous voulez un concept, c'est toujours risqué, c'est pour ça que je parle d'illustration en jouant sur le registre étymologique, quelque chose qui s'illustre, hein, de luxe qui de lumière, un éclat de lumière. Mais Bataille pensait à travers d'illustrations. Hein. Ce sont des concepts imagés, mais c'est faible de dire concept imagé. Donc, illustration, c'est mieux, je crois, même si l'illustration, ça relève au sens banal de la pédagogie et de l'exemplum. Mais la déchirure, c'était une illustration à travers laquelle, précisément, Bataille ouvrait une pensée sur une pensée éthique, parce que la thèse bataillienne a des conséquences éthiques très fortes, et je pense que c'est un penseur éthique au fond.
Et tous ces concepts dont on évoquait tout à l'heure, l'excès, l'orgie et tout cela, la violence, évidemment, il s'expose au risque de la mort, de la mort de l'autre, de l'assassinat, de la violence faite à l'autre. Et là, j'essaye un peu de déconstruire cette, disons, déconstruction entre l'éthique de type lévinassien, c'est-à-dire l'interdit du meurtre et tout cela, et l'expression du visage, qui est pour moi la violence même. Et puis, chez Bataille, l'impossibilité d'expression, c'est-à-dire l'impossibilité de la violence, la suspension de la violence dans l'expérience tragique de la violence. Donc, Bataille était tout à fait conscient des risques qu'il courait avec ses illustrations, je pense. Et donc, c'est aussi une pensée éthique, hein. Je veux juste insister sur ce point. Pour moi, l'informe, ce n'est pas du tout une catégorie négative. Et chez Bataille, ce n'est pas cela. C'est pour ça, pour cette raison, que j'essaye de l'associer d'abord au toucher, mais pas le toucher expressif qui touche à la chose, opération qui est impossible pour Bataille, à laquelle il substitue l'opération altérante. C'est-à-dire, le toucher est le lieu même de l'altération. N'est-ce pas? Et c'est pour cette raison-là que l'informe n'est pas de l'ordre du négatif, il n'est pas l'absence de forme, mais si vous voulez, c'est plutôt la puissance de la forme, ou grouille des formes, d'où émergent les formes. Ce qui importe, ce n'est pas de renoncer à la forme, parce que ce serait une sorte d'interdit de la représentation qui relève du secret, ou bien de théologie négative dans un sens, mais ce qui importe, c'est de penser la puissance transformatrice immanente de la forme, de penser la transformation des formes. Je pense que Bataille était extrêmement fort dans cette pensée-là, de penser à la transformation de la forme à partir de la limite de la forme, du bord de la forme et de l'être. Si vous me permettez une dernière image ou illustration. J'utilise cette métaphore du bord ou de la limite, je préfère un autre terme, et c'est le terme front. Front, mais au sens de front météorologique. Hein. Vous voyez, un front météorologique, hein, un nuage, par exemple. Parce que c'est une limite qui n'est pas stable. Il n'y a pas l'un bord et l'autre bord. Il n'y a pas l'actualité et la puissance, l'energia, la dynamis. Il y a un front qui change tout le temps. Il y a une limite qui est dynamique elle-même. Et c'est ça le front de l'altération. Il n'y a pas une puissance au-delà du nuage qui devient actualité au-delà de la limite, mais il y a précisément le front, qui est le tout, ça s'approche au pli de Deleuze, évidemment, qui est l'opération altérante. C'est cela. Je me permets même de dire que l'altération, c'est l'actualité ou l'acte de la puissance même. Donc, c'est en ce sens-là. Et donc, ce n'est pas une limite, parce que la limite, on l'imagine toujours comme un terme. Et ce n'est pas cela, la limite n'est pas un terme qu'on excède ou qu'on le pousse toujours plus loin. La limite est plutôt un front météorologique. Et c'est ça l'altération. C'est un processus qui est en soi dynamique, qui porte sa propre dynamis.
Pour revenir sur la forme, vite fait, je crois que vous dites que la forme est dans l'instant. Et dans votre livre La métamorphose et l'instant, vous expliquez que justement, pour vous, passer au terme d'instant vous permet de sortir, de la notion d'événement avec tout ce qu'elle comporte comme idée messianique, parce que l'instant c'est ce qui est c'est le moment, c'est l'insaisissable du passage de la vie à la mort, et donc avec cette notion de forme qui viendrait dans l'instant, ce serait aussi l'idée que c'est une forme insaisissable qui n'est pas une forme pleine et qui s'opposerait peut-être, je ne sais pas, à la gestalt, à toute cette idée de...
Tout à fait. En fait, oui, vous faites référence à l'autre livre qui vient de paraître, la métamorphose de l'instant, qui se situe évidemment dans une communauté de questionnement, si je puis dire, avec l'altération du monde. Et là, quand même, la perspective est un peu différente. Il y a aussi un long essai sur Bataille qui s'appelle « La déchirure », précisément. Là, le point de départ, c'est plutôt la question de la vie, hein, comme un des grands concepts, un des grands débats philosophiques de toute la modernité aussi, de notre actualité philosophique. Et c'est vrai que je fais recours au mot, pas au terme, mais plutôt au mot de l'instant. L'instant en tant qu'un événement radicalement séculier. Parce que je trouve que la catégorie d'événement, qui est fondamentale pour la philosophie moderne, et toujours préserve son héritage, son gène, si je puis dire, messianique, religieux. Soit ça peut être l'avènement de du Messie, ça peut être la fin du monde, la fin de toute chose, c'est-à-dire l'apocalypse, c'est-à-dire l'événement eschatologique. Mais je trouve que le régime moderne de la pensée a été gouverné précisément par ce nœud événementiel, par l'idée d'un grand événement qui, dans un sens, excède l'ordre de l'être tout en le posant. Et j'ai fait un travail qui n'est pas même peut-être dans les deux livres, c'est un texte publié dans la revue du Collège de philosophie qui s'appelle Rue Descartes, et c'est un numéro sur la métamorphose. Et là, j'ai un texte qui s'appelle La métamorphose et l'événement, précisément, où j'essaie de montrer que cette structure événementielle est peut-être la structure qui domine la philosophie moderne depuis Hegel au moins, en montrant que l'accomplissement de l'esprit absolu chez Hegel est un événement, est une structure événementielle, mais qui gouverne, hein, par une sorte de téléologie inversée, qui gouverne tout le trajet de l'esprit, tout le devenir de l'esprit. Et dans ce sens-là, c'est l'événement qui, à la fois, accomplit, achève l'ordre de l'être et l'excède. Dans nos jours, parmi nos contemporains, on peut penser à la pensée d'Alain Badiou, hein, l'être et l'événement, où, précisément, il y a toute une dualité, pour ne pas parler de dualisme ontologique, puisque Badiou, très explicite sur ce point, il dit « l'événement est l'exception de l'être, ce qui excède l'être. » Et même si c'est un grand critique d'Heidegger, tout en étant proche de la grande thèse heideggerienne que l'ontologie est l'essence de la philosophie, il faut dire que chez le dernier Heidegger, il y a, avec la pensée de l'Ereignis, le grand événement final, il y a aussi cette pensée-là. Dans son fameux texte « Le temps et l'être », Heidegger écrit « L'Ereignis n'est pas une mode de l'être, mais l'être est une mode de l'Ereignis. » Donc il y a toute inversion de la thèse de l'être étant, qu'elle entend plus tard. Et du coup, je me suis posé la question, peut-on sortir de cette logique crypto-messianique, religieuse, qui a aussi des conséquences majeures pour la pensée, non seulement philosophique, mais si vous voulez, pour la pensée politique, puisque la révolution, pour la pensée révolutionnaire, est aussi une sorte de grand événement, ou bien la fin de l'histoire, l'achèvement. Et avec une idée d'un grand événement, d'un événement final, il y a toujours le problème du changement. Et d'ailleurs, Badiou, dans le deuxième volume de l'être et l'événement, paru il y a 3 ans, je crois, il introduit, reintroduit la catégorie du changement par rapport à l'événement. Et ce n'est pas un hasard, parce que la question de la transformation reste ouverte. Si on avait juste un événement disruptif, vous voyez, disons la révolution, hein, qui vient comme un événement disruptif, qui casse l'ordre ou la norme d'ordre donné ou de l'être, hein, il se pose toujours la question de ce qui vient après. Hein, et c'est ça.
Ce qui lui oblige d'ailleurs à redéfinir les termes en termes de fidélité à l'événement.
Ah oui, tout à fait. Bon, c'est un grand débat, mais c'est pour revenir, c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir recours au terme de l'instant, hein, l'instant. Même si, évidemment, l'instant était toujours le nom privilégié de l'événement. Hein, c'est l'instant de la modernité, disons, un éclair, puis la nuit, et puis... Moi, je me suis posé la question de l'éclair à travers Sharpe, à travers Baudelaire, qui dit « l'éclair me dure ». Et c'est ça qui m'intéresse. C'est comment l'éclair dure, ou bien comment l'événement persiste. Hein? C'est une question éthique aussi, parce que, point de vue éthique, la fidélité de l'événement. Hein? Fidélité envers l'autre, hein, pour le mettre en termes lévinassiennes. Ben, il y a toujours plusieurs autres. Et c'est ça le problème. Est-ce que la fidélité à un événement autre ne fait pas violence à tous les autres? La fidélité à amoureuse, par exemple, est-ce qu'elle ne fait pas violence aux anciens amours? Qu'est-ce que ça veut dire être fidèle à un ancien événement? Est-ce qu'il y a des anciens événements? Est-ce que, au bout de compte, est-ce que l'événement peut durer? Le questionnement éthique, vous voyez, rejoint de nouveau le questionnement ontologique. Et pour moi, évidemment, cette question de la durée de l'événement renvoie à la question de la métamorphose ou de l'altération. Pour reprendre le concept central de l'autre livre, la métamorphose... Au moins, la manière dont je la comprends, c'est précisément ça. C'est l'impossibilité d'un événement seul et en même temps la possibilité de persistance de tout événement à travers, si vous voulez, le nombre infini d'événements. C'est une question très difficile. J'ai même essayé, parce que l'autre livre est assez hétérogène, elle est composée de textes qui viennent un peu de différentes périodes, et j'ai essayé de mettre tout ça ensemble, et donc il y a des essais assez, je dirais, imagés, hein, qui partent des images comme une nature morte de l'artiste visuel Sam Taylor Wood, ou qui partent d'un texte, de morceau de d'Artaud, ou bien d'une scène de Dostoïevski. Mais en même temps, j'ai tenté aussi d'articuler cette question de manière plus formalisée, voire formaliste, dans le dernier texte du livre. Et voilà, c'est... Si je peux faire un résumé à une phrase, c'est ça, la métamorphose, ce serait précisément la durée de l'événement ou la persistance de l'événement en tant que irréductibilité de la multitude d'événements, de la multiplicité d'événements. Et tout de même, la question du passage d'un événement à l'autre est une question majeure et énorme. Et je ne pense pas du tout avoir résolu cette question. Je tente juste de le réarticuler tout en proposant quelques outils à tenter d'aller un peu en avant dans ces questionnements. Mais pour revenir à votre dernière question, qui était justement la question de l'image, de la forme dans son rapport avec l'instant. Et c'est vrai que j'ai un épilogue, en fait c'est un fragment que j'ai extrait d'un texte plus personnel. Je pensais. De toute façon, je parle de l'image du dormeur, en disant que c'est une image à la fois figée, n'est-ce pas, dans une forme. Maurice Blanchot dit, il y a un texte fameux, c'est un appendice à l'espace littéraire, il part de l'image du cadavre. Il dit que c'est un texte très étonnant. Et là, il parle qu'en effet, l'image se dérobe toujours, tandis que le cadavre, c'est le seul corps d'avoir une forme. Puisque l'image ne se dérobe plus, et en même temps, il parle d'une inquiétude, d'une ambiguïté, d'où viennent les rêves, dit-il. C'est très, 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 très intéressant. Blanchot est un penseur non seulement très proche à Bataille, mais souvent, je pense, associé très rapidement à cette lignée de la pensée négative. Tandis que Blanchot, et c'est un effet rhétorique, parce qu'on traite Blanchot un peu d'un penseur mineur, pour ainsi dire. Et c'est pas du tout... Blanchot, c'est vraiment un des critiques majeures de la négativité, de tout l'ordre conceptuel de la négativité. Et précisément, il parle d'une ambiguïté essentielle de l'être, qui est tout autre chose que le non-être ou le négatif. Et voilà, et ça a quelque chose à voir avec cette image du cadavre. Mais voilà, le dormeur, c'est pas un cadavre. C'est un être vivant qui ne bouge pas. Tout de même, ne bouge pas. Et donc, j'ai pris en tant qu'exemple ou illustration à cette image du dormeur, en disant que ce n'est pas, la pose du dormeur, ce n'est pas une pose. Il ne fait pas, il ne pose pas. Le dormeur ne pose pas. Il est exposé à la vue. Il est exposé. Il est ouverte. Et, il est ouvert. Ou elle est ouverte par son image à la vue, dans un sens offerte à la vue, vulnérable, exposé, voilà. Mais en même temps, il y a une puissance de la vie qui il y a son pouls, il y a la vie qui tremble en lui. Il peut du coup bouger, changer de pose. Et donc il y a cette image qui est très ambiguë, très ambivalent, insaisissable, comme vous dites, qui porte précisément la puissance de transformation de l'image, mais de manière vraiment immanente. Au moment figé de l'image, il y a déjà cette puissance, cette transformation. Et du coup, je pense que je cite l'exemple de la jetée de Marker, le film La Jetée, vous connaissez peut-être, c'est un film en fait, d'images figées, des photographies, on dirait. Et il y a juste un moment, seulement un moment, où l'image bouge, et c'est l'image d'une femme dormante, d'une dormeuse, si on peut dire. La thèse, si je peux parler des thèses, c'est que l'image du dormeur permet de voir l'image même. L'image même, ça veut dire la transformation immanente à l'image. Et donc, si je peux citer, parce que pour me faire une autocritique, pas surcritique, parce que j'ai beaucoup hésité sur la dernière phrase de ce deuxième livre, qui est « Dans le silence du dormeur, un ange passe éternellement pour annoncer que l'éternité ne dure qu'un instant. Et cet instant ne s'arrête jamais. » Donc là, je me suis dit, non, mais ça, c'est trop messianique. Il y a l'ange qui passe, il y a tout le registre rhétorique du messianique. Et tout de même, je me suis dit, non, je le garde, parce que, voilà, c'est quand même, c'est une inversion de l'ordre de pensée messianique, précisément parce que l'ange passe éternellement, mais l'instant ne s'arrête jamais. Tandis que dans la pensée messianique, l'ange vient à un instant et c'est l'instant qui arrête le temps. Voilà, donc si vous voulez, dans ce moment du sommeil, l'image du dormeur est un instant qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire une pure métamorphose. Et c'est juste une tentative d'articuler ce lien qui est très difficile entre la forme, l'image et l'instant.
Et ça a à voir avec la question de la vérité. Ce que vous dites de bataille à propos de bataille et la différence entre bataille et Lévinas, vous inversez, vous dites que bataille, c'est l'expérience infinie de la finitude. Alors que pour Lévinas, c'est plutôt le geste de l'ouverture de l'infini à même la finitude. Là, il ne s'agit pas de l'ouverture de l'infini, mais l'expérience infinie de la finitude. Puisque vous parlez du cadavre et du dormeur, et il y a tout un passage autour de la question du pied nu chez Georges Bataille. Et du coup, comment la vérité de Bataille n'est pas aveuglante, mais elle est justement aveugle. Ce dormeur, c'est aussi un aveugle. Ce cadavre, c'est aussi un aveugle. Là, on touche aussi à cette question, parce que la question évidemment de l'événement, la question de l'instant, a à voir avec la question de la vérité.
Ah oui, ça, c'est un passage extraordinaire, un fragment de Bataille de l'époque de la guerre, dont vous évoquez à l'instant. Donc, Bataille a vu un avion allemand tomber. Et il raconte son expérience. Il a trouvé l'avion en Normandie, je pense, et il y avait deux cadavres, hein, deux corps qui étaient morts il y a quelques minutes, brûlés, hein, vivants, des soldats allemands, des pilotes. Et donc il y avait ces corps défigurés complètement, et il y avait juste une partie des deux corps qui était resté intact. Et c'était le pied du cadavre. Le pied qui était resté intact. Et Bataille dit, peut-être il faut citer parce que c'est très fort, mais il dit plus ou moins, ce pied nu me regardait. Je finis par trouver l'endroit où cet avion allemand était tombé. Le pied d'un des Allemands avait été dénudé par l'arrachement de la semelle de la chaussure. Les têtes des morts, me semble-t-il, étaient informes. Les flammes avaient dû les toucher. Ce pied seul était intact. C'était la seule chose humaine d'un corps, et sa nudité, devenue terreuse, était inhumaine. La chaleur du brasier l'avait transfiguré. Cette chose n'était pas cuite, ni calcinée. Dans l'empeigne, sans semelle de la chaussure, elle était diabolique. Mais non, elle était irréelle, dénudée, indécente en dernier degré. Je restais longuement immobile ce jour-là, car ce pied nu me regardait. Quand j'ai lu pour la première fois ce fragment, j'étais vraiment frappé. Hein. Je trouve que c'est... D'abord, il y a tous les concepts majeurs de Bataille. Il y a l'informe, il y a la nudité... Il y a, si vous voulez, le toucher, il y a la mort, il y a le feu, une autre image majeure de Bataille. Et j'ai été frappé aussi, non seulement par le fait qu'un pied nu peut regarder, et ce n'est pas une métaphore, je pense que ce n'est pas une métaphore, mais j'étais frappé surtout par la puissance éthique de ce texte. Qu'est-ce que ça veut dire un pied nu qui regarde, le pied nu d'un corps mort qui vient de mourir, de brûler, hein? Et si on pose cette question par rapport au visage lévinassien, hein, le visage de l'autre. Il n'y a pas l'être qui vient d'abord, il y a d'abord l'autre, et c'est toujours par le visage que vient l'autre. Vous savez, Lévinas, dans ses derniers livres, par exemple, dans Autrement qu'être, il est très prudent. Donc il parle du visage en tant que entité non empirique. Il dit le visage n'est pas seulement la face, hein, ce n'est pas seulement le visage. Une épaule peut bien être un visage. Mais c'est toujours, d'abord, il y a un côté anthropomorphique, hein, et puis il y a un moment expressif. Parce qu'il cite là un auteur russe, Grossman, un récit sur le goulag soviétique. Et là, il a vu un prisonnier, le narrateur a vu un prisonnier, juste l'épaule d'un prisonnier qui a entendu sans doute ça, la condamnation. Et donc là, cette épaule-là est un exemple pour Lévinas, pour le visage. Hein, cette épaule-là qui ouvre l'expérience éthique, qui est liée à la présence de l'autre et à la supériorité, si vous voulez, de l'autre, la transcendance, n'est-ce pas? Donc, chez Bataille, il y a d'abord la partie la plus obscène, entre guillemets, du corps humain, c'est le pied. Hein, Bataille était fasciné par les pieds, le gros orteil, les pieds, les ouvriers du corps, disait-il, les prolétaires du corps. Et puis, il n'y a que le pied. Il n'y a pas d'expression. Il n'y a pas un pied nu qui exprime, disons, une émotion, qui exprime un mouvement de la vie, puisque c'est un corps mort. Et là, est-ce que un pied nu mort peut regarder? C'est ça la grande question. Est-ce que, pour Lévinas, un corps nu d'un cadavre peut regarder? Et c'est ça, pour moi, une question vraiment non seulement éthique, moi je dirais, là, Bataille touche à une sorte de suréthique, pour abuser du préfixe sur, d'une suréthique. Et c'est une suréthique parce qu'elle ouvre la question. La question ontologique ou bien la question philosophique d'origine, qui est la question de la vérité. Hein. Et donc, dans un sens, il excède le règne de l'éthique, au moins au sens lévinassien, le règne de la responsabilité, de la justice, mais pas de la vérité, qui est un concept heideggerien, on le sait, lié à la pensée de l'être. Et je vais continuer, je vais lire un peu plus, c'est la deuxième partie de ce fragment, parce que c'est vraiment extraordinaire. Après la phrase « Je restais longuement, immobile ce jour-là, car ce pied nu me regardait », ce qui suit est entre parenthèses. « La vérité, je crois, n'a qu'un visage. » Un visage. Hein. « Celui d'un démenti violent. » La vérité n'a rien de commun avec des figures allégoriques, des figures de femmes nues. Mais ce pied d'un homme qui vivait tout à l'heure avait, lui, la violence négative de la vérité. Autrement dit, la vérité n'est pas la mort. Dans un monde où la vie disparaîtrait, la vérité serait, en effet, ce n'importe quoi qui suggère une possibilité, mais qui, du même fait, la retire. Et sans doute, à travers l'immensité, une possibilité éternelle, indéfinie, subsiste, mais puisqu'un moi, en celui qui écrit, ce pied annonce la disparition terrifiante de ce qui est, désormais je ne verrai plus ce qui est que dans la transparence du pied qui, mieux qu'un cri, en annonce l'anéantissement. Bon. C'est un fragment extrêmement puissant. Il est vraiment, dans un sens, ça prend par la gorge. Je veux dire, il y a tout. D'abord, il y a la question du visage. C'est à l'époque, hein, Lévinas n'avait pas écrit ses ouvrages majeurs. Puis, il y a la question de la vérité. La vérité n'est pas allégorique. Hein, c'est pas les femmes nues. Ce n'est pas la nudité. Hein, c'est pas la vérité nue. La vérité nue est violente. Et elle a une violence négative. Bon, il y a la négativité, mais c'est la négativité du refus. C'est un démenti violent, dit-il. C'est un démenti violent et c'est un n'importe quoi. C'est le rien tout simple, si vous voulez. C'est un n'importe quoi. C'est ça la vérité après la vie. Hein. La vie disparaîtrait. Il y a cette vérité-là. Hein. Le n'importe quoi qui annonce une possibilité tout en la dérobant. Donc, je ne verrai plus ce qui est, je ne toucherai plus à la chose, je n'aurai plus accès à la vérité, à la chose de la vérité, à la chose nue, que dans la transparence du pied qui, mieux qu'un cri, en annonce l'anéantissement. Donc la vérité, c'est ce n'importe quoi qui est précisément l'impossibilité de la chose, qui est précisément l'impossibilité de voir, mais qui n'est pas négatif, qui n'est pas négatif, qui est transparent. Et c'est le mot qui m'a frappé le plus. Ce n'est pas le fait que le pied nu regardait, c'est le fait qu'il était transparent. Et ça explique le dernier chapitre du livre, qui est consacré à la notion, c'est une invention, la diaphanie, ce que j'appelle la diaphanie, bien sûr. Ça vient de... C'est pas la diaphanéité, hein, ça vient de diaphanos, mais je joue sur l'étymologie du mot diaphanie, diaphane, qui vient de diaphanos. C'est le dia, ça veut dire le double, le caractère double de la lumière, diaphanos. Ce n'est pas le dialogos, le double du logos, c'est Lévinas, n'est-ce pas? C'est le double de la lumière. Donc, la vérité ne relève pas de l'ordre épiphanique. Il n'y a pas de révélation de la vérité. Ce n'est pas de l'ordre phénoménal non plus. Phénomène qui vient de phainon, de phos, hein, de lumière aussi. Mais c'est transparent. C'est diaphane. C'est diaphanos. Donc il y a cette distance immanente qui est en fait une transparence. Ce n'est pas un aveuglement à cause d'une puissance lumineuse, mais c'est une impossibilité de voir parce que la vue est plongée dans un espace transparent. Hein? Vous voyez? Et donc cet espace transparent, c'est peut-être ça l'espace de l'infini de la finitude, qui n'est ni l'obscurité, ni la nuit, au cœur de la nuit, comme disait Derrida, ni la lumière aveuglante, tout pénétrante, épiphanique de la vérité, hein, depuis Platon jusqu'à Heidegger, c'est la transparence, c'est la diaphanie de l'être. Et cette diaphanie, évidemment, n'est possible qu'à travers une image, et c'est une image informe, transfigurée même, c'est l'image de ce pied nu qui regarde. Voilà, donc je trouve que Bataille pense, hein, qui pense, qui affirme même des pensées, qui ferait des chemins par la pensée à travers les images, à travers les illustrations. Et c'est ça la puissance de ce fragment. Je trouve que c'est une apostrophe extrêmement puissante par rapport à toute l'œuvre de Lévinas. C'est un fragment d'une demi-page.
C'était un entretien avec Boyan Montchev, professeur de philosophie à la Nouvelle Université de Bulgarie, Sofia, et vice-président du Collège international de philosophie. Publication L'altération du monde pour une esthétique radicale aux nouvelles éditions Ligne. La métamorphose et l'instant aux éditions La Phocide.
La vue qui se transforme en toucher, la tactilisation de la vue, l'abolition de la distance dans la déchirure incommensurable de l'immédiateté, veut dire exactement cela. L'exposition des visages. Exposition veut dire qu'il faut s'attendre à tout, et que l'événement ne survient jamais en face, mais qu'il surprend. De côté, par derrière, par en bas, du côté du pied, si on peut dire. La surprise peut être un baiser tendre, posé sur les paupières apaisées dans le sommeil, mais elle pourrait être également la brûlure, le feu éclatant et aveuglant des obus.
Musique, Otomo, Yoshihide. À bout de souffle. audioblog.arteradio.com/a-bout-2-souffle